Radio Okapi.
Il est 12h à Kinshasa, le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi, début ce lundi à Kinshasa, d'une mission commerciale entre le Kenya et la RDC dans le cadre du partenariat avec le groupe Equity Bank. Ces assises de 2 semaines font suite à l'accord signé récemment entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. En Ituri, plus de 470 000 déplacés de guerre sont privés de l'appui médical de MSF depuis un mois à Bambou et à Nizi. Cette ONG qui a quitté la zone suite à l'activisme des miliciens de la CODECO plaide pour le rétablissement de la paix. Notre invité, c'est le directeur du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Jean-Luc Mastaki parlait des conclusions du forum DRC Africa Business tenu récemment à Kinshasa et des défis à relever. Madame, messieurs, bonjour. Ouvrons par une page économique. Début ce lundi à Kinshasa de 14 jours de la mission commerciale Kenya-RDC. Et c'est en partenariat avec le groupe Equity à travers ses filiales Equity Bank Kenya et Equity BCDC en RDC. Ces assises qui se termineront le 13 décembre prochain sont consécutives à l'accord signé en avril dernier entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Des précisions avec vous, Daniel Tambizoni.
C'est une mission pour soutenir les efforts continus des deux pays à promouvoir le commerce régional et la croissance des entreprises. La mission commerciale qui reçoit près de 200 investisseurs et participants commerciaux du Kenya comprendra des expositions commerciales, des forums d'affaires, des visites de sites et des rencontres dans 4 des plus grandes villes de la RDC, à savoir Kinshasa, Goma, Lubumbashi et Mbujimayi. Les investisseurs kenyans vont rencontrer et constituer des réseaux d'affaires avec leurs homologues congolais pour explorer les opportunités de débloquer le commerce, le tourisme et l'investissement en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cette initiative conjointe est le résultat de l'accord entre Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Uhuru Kenyatta du Kenya, conclu en avril 2021 lors de la conclusion des accords bilatéraux RDC-Kenya, des accords qui visent l'amélioration du commerce et la circulation des personnes et des biens. Le groupe Equity, partenaire à ces assises, aidera la mission commerciale dans la mobilisation des PME d'Equity Kenya et ceux d'Equity BCDC et les mettre en réseau d'affaires.
Merci Daniel Tambizoné pour ces précisions. La Banque africaine de développement BAD octroie près de 100 millions de dollars américains à la RDC pour l'aménagement de la route nationale Bukavu-Goma. La décision a été annoncée vendredi dernier à Abidjan, siège de la BAD. Cet argent va servir aux travaux de la première phase de ce projet. Question. À quand le début proprement dit des travaux? La réponse avec vous, Cynthia Bachizina Bizana.
Les travaux à réaliser comprennent pour commencer l'aménagement de la section Bukavu-Nyamukubi dans le territoire de Kalehe, mais aussi quelques voiries structurantes et bretelles dans la ville de Bukavu et le territoire de Kabare. Le cas de la route d'accès au centre de recherche agronomique appelé Campus de recherche IITEA, président Olusegun Obasanjo. Au total, 117 km seront aménagés dans la province du Sud Kivu, annonce la BAD. Coût des travaux, 99 millions de dollars américains répartis comme suit. Un don de 52 millions de dollars, ensuite un prêt de 47 millions de dollars, reste maintenant le début effectif des travaux. Aucune date n'a été communiquée pour le moment parce qu'il y a des préalables à remplir avant le décaissement des fonds, précise l'ingénieur Johnny Makwela, chargé d'infrastructure au bureau de la BAD en RDC. Les études techniques doivent notamment être faites, suivront les appels d'offres et le processus de passation de marché. Mais cela devra aller vite car la BAD et la RDC n'en sont pas à leur premier projet, a rappelé l'ingénieur Makwela. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Partons maintenant pour le Maniema où les intervenants dans le secteur des mines sont appelés au respect du code minier. Appel lancé le week-end dernier par le PDG de la société Congo-Jacksine. Joseph Kazibaziba rappelle la nécessité qu'il y a de tenir compte des aspects techniques et non politiques. Il le dit au micro de Florence Kizalunga.
la libre circulation des minéraux sont des mots qui sont dans les codes miniers. Tant que la libre circulation des minéraux du code minier sont respectés, je ne vois pas pourquoi ne pas en encourager à la bonne volonté. La question devrait être, n'est-ce pas, traitée de manière technique et que politique. Politique, c'est pour accompagner des décisions techniques. On ne peut pas vouloir accompagner l'artisanat minier sans pourtant associer les gens qui sont en aval. En aval, ce sont les entités de traitement. J'aurais bien souhaité qu'il y ait un débat beaucoup plus ouvert où vous avez ceux qui sont en amont, les coopératives agréées, les négociants et aussi les entités de traitement ou de transformation qui prennent les concentrés et qui les exportent. La discussion doit ou devrait englober toutes les personnes intervenantes sur la chaîne de l'extraction jusqu'à l'exportation. En fin de compte, les personnes qui subissent des incidents à tous les niveaux, ce n'est pas ni les négociants, ni les coopératives, mais ce sont des entités de traitement. Mais si finalement certaines personnes veulent en faire une affaire personnelle, là ça sera en violation.
Dans un autre chapitre, en Ituri, plus de 470 000 déplacés de guerre sont privés depuis un mois de l'appui médical de Médecins Sans Frontières à Bambou et à Nizi dans le territoire de Djougou. C'est depuis le retrait de cette ONG de cette zone à la suite de l'activisme des miliciens de la CODECO. Dans un communiqué de presse publié le week-end dernier, cette ONG demande aux parties en conflit d'œuvrer pour le retour de la paix dans la région. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
Tout est parti de l'embuscade au mois d'octobre dernier d'une équipe du personnel soignant de l'ONG MSF par des présumés miliciens de la CODECO sur la route Bambou à environ 40 km au nord de Bounia. Deux agents de cette organisation et trois passagers qui venaient d'assister les malades dans cette zone ont été blessés par balles. Selon le communiqué de l'ONG MSF, la situation sanitaire et humanitaire reste préoccupante dans cette zone qui compte environ 120 000 déplacés internes. Cependant, l'insécurité persiste dans la région et entrave la reprise des activités des humanitaires. Le coordonnateur des projets des MSF de Nizi déclare, je cite, « Aujourd'hui, les conditions d'un accès sécurisé et nécessaire à la reprise de nos activités ne sont pas réunies. » Fin des citations. Stéphane Hauser regrette le fait que ce soit les civils, les blessés des guerres et les malades qui payent les prix de l'insécurité qui sévit dans cette zone. Pour pouvoir répondre aux besoins des populations affectées, il est indispensable de préserver la sécurité de nos médecins, a-t-il conclu, signalant que l'ONG MSF appuyait environ 4 hôpitaux de référence et plus de 30 postes de santé dans les territoires des Djougou. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Arrestation le week-end dernier à la gare ferroviaire de Mweneditou d'un couple qui tentait de voyager avec 29 mineurs, pour la plupart des filles. D'après les sources sur place, ces enfants étaient déjà enfermés dans un wagon d'un train marchandise en partance pour Lubumbashi via Kamina. Pour l'instant, l'incriminé est auditionné au parquet de Mweneditou. En Bujimaï, une correspondance d'Esther Ndalafina.
C'était vers 20h que le couple a été surpris avec 29 enfants mineurs enfermés dans un wagon vide en partance pour Kamina. Les sources proches de la Société des chemins de fer du Congo SNCC affirment que ces enfants se trouvaient assis dans un même wagon attendant l'heure de départ du train marchandise. C'est en ce moment que les contrôleurs de la SNCC, appelés communément Corsi, ont découvert ce couple dont l'homme est une personne vivant avec handicap entouré de 29 enfants mineurs. La même source affirme qu'au cours de sa première audition auprès des inspecteurs de la SNCC, l'homme a dit avoir été sollicité pour voyager avec les enfants par leurs parents résidant depuis quelques temps à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Du côté de la SNCC, Mweneditou, l'on affirme avoir transféré ce dossier au parquet près le tribunal de grande instance. Les organisations de la société civile déplorent de constater des mouvements migratoires d'enfants accompagnés par les personnes vivant avec handicap ces derniers temps sur les trains marchandises. Rappelons qu'il y a quelques années, certaines organisations non gouvernementales du Kasaï oriental avaient été surprises avec plusieurs enfants mineurs qu'ils faisaient voyager pour les États-Unis d'Amérique. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. En séjour à Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, la première dame a sensibilisé samedi dernier les élèves sur les conditions d'obtention de la bourse d'excellence. À cette occasion, Denise Nyakeru Tshisekedi a affirmé qu'aucun enfant de la Tchopo n'a réalisé jusque-là le pourcentage requis pour bénéficier de cette bourse initiée depuis 2019. C'était au cours d'un dîner offert aux élèves du complexe scolaire HOP situé dans la commune de Makiso. Reportage à Kisangani de Jacques Mkongolé.
La première condition pour obtenir cette bourse est de réaliser 85% aux examens d'État, a déclaré le coordonnateur de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Étant donné qu'aucun élève de la Tshopo n'a encore bénéficié de cette bourse, Denis Nyakeru a exhorté les élèves à fournir un peu plus d'efforts pour réaliser les pourcentages requis, soit 85% pour espérer aller étudier en Europe.
Si je me suis déplacé personnellement, surtout pour m'adresser à vous personnellement, parce que je me dis peut-être que vous n'êtes pas au courant du programme, alors autant venir jusque-là pour vous en parler, pour vous encourager à y arriver. Dites-moi, parmi vous, qui ne rêve pas d'aller étudier en Europe ?
Les élèves présents à cette rencontre ont pris l'engagement de réaliser ce pourcentage, comme le confirme l'un d'entre eux.
Le message que la première dame nous a fait, de nous rendre encore forts durant cette année, pour que chacun de nous ait ces 85% le méritant pour faire la fierté de notre province de la Tshopo.
Tout en remerciant la première dame pour avoir pensé à la Tshopo, le gouverneur de province a interpellé les parents et les enseignants. Maurice Abibou Sakapela.
Ceux qui ont la charge d'enseigner, de transmettre des connaissances à nos enfants pour que nous puissions relever ces défis. Les enfants ont pris l'engagement. Nous, les parents, nous devons les accompagner pour que, à la prochaine édition, que la Tshopo se retrouve parmi les bénéfices.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito dit constater une volonté délibérée du régime Tshisekedi d'entretenir la confusion d'une part entre les conflits ou divergences qu'il oppose à l'Église représentée par la CENCO et les CC sur les divergences, les revendications de celles-ci et d'autre part ceux qui l'opposent au peuple congolais concernant sa souveraineté. Cette dernière, selon une déclaration publiée hier à Kinshasa, passe par des élections transparentes, gage de la vérité des urnes, élections susceptibles de mettre fin à l'illégitimité des institutions de la RDC perpétuées par le chaos électoral de décembre 2018. On l'écoute à ce sujet, Albert Mukulubundu.
Selon la déclaration politique du parti Nouvel Élan, une entente éventuelle entre le gouvernement et la hiérarchie de l'Église sur quelques desiderata exprimés par cette dernière laisserait encore entier le problème lié à la souveraineté du peuple, de ses fidèles et laïcs, à son devenir et à son destin. Elle ne suffira pas pour l'amener à abandonner sa lutte pour l'autodétermination qui passe par une CENI non politisée. Albert Mukulubundu, cadre de Nouvel Élan et chargé des relations extérieures de la MUCA, explique.
Le peuple congolais ne pardonnera pas un deuxième revirement de l'Église après celui de décembre 2018. L'Église doit éviter de porter la responsabilité historique du maintien du régime actuel par une deuxième fraude électorale qui se prépare.
Ainsi donc, pour Nouvel Élan, la lutte du peuple pour sa souveraineté ne prendra fin que quand celui-ci aura à la tête du pays des dirigeants choisis par lui-même d'une manière transparente, libre et démocratique dans la paix et la cohésion nationale, conclut la déclaration politique.
Merci Alain Irung Mouchige pour ces précisions. Et puis, plus de 600 dossiers de conflits fonciers à ce jour au ministère des Affaires coutumières ne trouvent pas des solutions. Annonce faite ce lundi à Radio Okapi par le président de l'Alliance des autorités traditionnelles de la RDC. Wilbert Kyungu Osibesue affirme à Radio Okapi que la plupart des conflits sont l'œuvre des politiciens qui manipulent certains chefs coutumiers. Il s'est confié à Blaise Chindani Kambala.
Je ne voulais pas que je termine le mandat sans toutefois terminer les conflits. Et c'est lui qui viendra me remplacer, qui ne trouve pas de conflits, c'est ça. À ce qui concerne les conflits, il y a déjà une commission en place que nous appelons la commission mixte, créée par le ministère des Affaires coutumières au sein même du ministère de l'Intérieur. Par rapport à la préoccupation, moi je vois il y a beaucoup de conflits, et surtout à Kinshasa, et les autorités politiques qui s'ingèrent des problèmes coutumiers. Et pourtant, ils n'ont pas aucune loi qui les autorise de régler les conflits coutumiers. Que vous soyez bourgmestre, administrateur, tout consort, rien.
Mais on accuse souvent les chefs coutumiers, eux-mêmes sont à la base de multiples conflits fonciers.
Moi, je vous dis vérité, quand on vous dit comme ça, les chefs coutumiers sont manipulés par la politique. Ça, c'est la politique qui nous divise, soit en disant que les chefs coutumiers sont des kanakate. Et vous voyez tout qui crée beaucoup de conflits. Allez au ministère de l'Intérieur, vous allez voir plus de 600 conflits. On n'arrive pas même jamais à terminer même un conflit.
Actualité internationale.
En Gambie, C'est la dernière semaine de campagne avant l'élection présidentielle qui aura lieu samedi prochain dans le plus petit pays du continent africain. 6 candidats sont en lice. La tension monte progressivement à 6 jours du scrutin. Les caravanes des partis politiques qui ont sillonné le pays d'est en ouest pendant 3 semaines maximum ont regagné la capitale. L'Iran est fermement déterminé à parvenir à un accord avec la communauté internationale sur le dossier nucléaire lors des pourparlers qui reprennent ce lundi à Vienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères affirme que le gouvernement a montré sa volonté et son sérieux en envoyant sur place une équipe de qualité connue de tout le monde. Il précise que si l'autre côté montre la même volonté, les deux parties parviendront à un compromis salutaire.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Jean-Luc Mastaki, parlait des conclusions du forum d'IRC Africa Business qui s'est tenu à Kinshasa la semaine dernière et des défis à relever dans la mise en œuvre de l'usine de précurseurs de batteries électriques. Il s'entretient avec Paul Matendo.
Monsieur Jean-Luc Mastaki, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, vous êtes l'un des grands organisateurs de ces forums. Quelles sont les résolutions retenues ?
Disons tout d'abord que le forum a eu pour objectif de réunir des partenaires financiers autour du projet de transformation du cobalt congolais afin d'aider ce pays qui est dépositaire de plus de 70% des réserves mondiales de cobalt à passer de l'étape d'exportation de matières brutes pour commencer à produire des précurseurs de batteries. La réunion s'est conclue par une signature d'accord pour lancer le projet d'installation d'une usine ici qui sera intégrée au système extractif congolais pour produire les précurseurs de batteries dans ce pays. Les prochaines étapes, c'est mettre en place, ça a été fait déjà, le Conseil congolais de la batterie qui fait un partenariat global incluant toutes les parties prenantes congolaises et étrangères et le partenariat panafricain pour que nous puissions avancer sur ces chantiers et que les mois qui viennent soient les mois où on va avoir étape par étape la mise en place de ce projet novateur qui consistera à produire les précurseurs des batteries et demain, pourquoi pas les batteries et après demain, pourquoi pas les voitures électriques en RDC.
Qu'est-ce que les Nations Unies comptent faire pour mobiliser le partenaire financier ?
Déjà, nous les avons mobilisés. Nous sommes venus ici avec Africa Finance Corporation. Nous sommes venus ici avec Afrexim Bank. Nous sommes venus ici avec la Banque africaine de développement. Nous sommes venus ici avec Badea. Nous sommes venus ici avec le Global Compact des Nations Unies. Et donc, déjà, les ressources sont mobilisées. Devant le président Félix Tshisekedi, il a été signé le pledge. Le pledge qui témoigne de l'engagement de tous ses partenaires financiers à mettre la main à la poche pour pouvoir matérialiser ce projet. Nous allons donc mettre en place déjà les structures. Nous allons, les dernières discussions dans la séance de clôture, c'était pour essayer de faire le brainstorming pour avoir des éléments de cet appareil-là qui va nous permettre maintenant de mobiliser, de canaliser toutes ces ressources pour que nous commencions à mettre en place le projet. Donc, il n'y a pas beaucoup de soucis du côté de la mobilisation des partenaires financiers. Tout a déjà été fait. Ils sont très engagés. Nous avons un secrétariat technique des partenaires qui est très engagé et qui a déjà fait le pledge. Il s'agit maintenant d'avancer avec la partie congolaise pour que cette idée devienne une réalité. Comme nous disons à la CEA, go from ideas to action. Nous voulons maintenant avoir des actions sur le terrain et dès demain, on va le voir au Congo.
Quels sont les défis que vous avez déjà identifié en tant qu'organisateur?
Les grands défis par rapport à ce projet, je crois que le projet, comme la vice-première ministre l'a dit, c'est un projet solution. C'est-à-dire qu'il apporte beaucoup de réponses à des défis qu'il y avait ici. Nous y aurons dans une approche sous-régionale parce que le Congo n'a pas toutes les matières premières de batterie. Le Congo a la matière première la plus importante qui est le cobalt, mais il y a d'autres matières premières. Le lithium, nous en avons, graphite et d'autres qui viennent de l'extérieur. Nous avons déjà trouvé solution à ce problème-là en proposant une chaîne de valeur sous-régionale. C'est-à-dire le Congo, avec sa matière première principale, va avoir l'appui du Gabon en termes d'apport de manganèse. Graphite viendra du Madagascar ou de la Tanzanie, et ainsi de suite, nous allons construire une batterie produite au Congo, mais une batterie panafricaine. Premier défi que nous avons relevé. Deuxième défi, c'est le défi des compétences. La plupart des fois, les investisseurs du secteur de pointe disent que le Congo n'a pas de compétences requises, pas beaucoup d'ingénieurs qui peuvent faire ce travail. Le projet propose dans un premier temps la mobilisation des compétences panafricaines. Pendant un temps qu'ils vont venir faire ce partenariat travailler avec le Congolais pour renforcer les capacités de nos propres acteurs afin que demain nous puissions nous approprier de ce projet et que le Congo consolide son leadership comme cœur de la transition énergétique en Afrique.
Ce projet se décide au sommet, effectivement. Quel est le message que vous pouvez vous donner à la base?
Ce projet ne se dessine pas au sommet. Les débats qui se sont passés ici pendant 3 jours ont mobilisé les acteurs du secteur public. Il y a eu un dialogue, quasi sociétal ici sur ces questions. Nous allons passer aux étapes suivantes, les étapes qui vont nous amener sur terrain pour mobiliser beaucoup plus les populations à la base. Mais déjà, le projet a été ficelé à travers un dialogue qui a duré 8 mois de sommet vers la base. Tous les acteurs, les entrepreneurs du secteur, vous avez suivi le monde de la FEC ici. Vous avez suivi le monde des femmes engagées dans les mines. Vous avez suivi le monde des miniers, des creusures artisanaux. Et donc, il y a cette coalition-là qui est en place, qui témoigne que le projet est en train de se développer de façon participative.
Monsieur Jean-Luc Mastaki, merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur du bureau régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Jean-Luc Mastaki était interviewé par Paul Matendo. Il est 12h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Chikota-Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Erung-Mouchige. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.